Et tout de suite, on va retrouver Matt qui est sur la terrasse du stand de la radio.
Oui, Greg, je suis avec Madame la maire, Annie Masset. Bonjour, Madame Masset.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Alors, les 24 heures de la voile viennent de s'achever. C'est un rendez-vous incontournable de l'été hein, qui rassemble chaque année les passionnés de voile, les habitants, les vacanciers et de très nombreux visiteurs. Et cette édition avait une particularité pour vous puisqu'il s'agissait de votre première 24 heures de la voile en tant que maire de Trégastel. Alors, une fois cette fête terminée avec un petit peu de recul, quel bilan faites-vous de cette édition ?
Alors, d'abord, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont organisé cette magnifique fête. Merci, bien sûr, à tous les navigateurs qui nous donnent un spectacle absolument superbe sur la mer. Ils ont eu des conditions météo favorables, très favorables. Et merci à tout le public. Mes premières impressions, c'est une impression de bien-être comme tout le monde aujourd'hui. Et je vois que les organisateurs se sont donné du mal, qu'on peut faire confiance aux organisateurs, on peut faire confiance aux services, on peut faire confiance aux associations pour organiser cette fête, à tous les bénévoles. Et ça, c'est très gratifiant pour un maire de voir toute une communauté se rassembler pour réussir une fête.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année ?
Qu'est-ce qui m'a le plus marqué ?
Parce que vous connaissez bien sûr les 24 heures de la voile.
Les 24 heures, je les suis depuis longtemps.
Mais là, est-ce qu'il y a des choses que vous dites, je connaissais pas forcément ça, et en tant que maire, on découvre des choses.
Alors, comme maire, on est très attentif d'abord à ce qui se passe partout. On va voir tous les stands. Donc ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas, que d'aller voir chacun pour voir si tout se passe bien. C'est principalement ça, on a toujours le souci de ne pas avoir d'ennui pour les uns ou pour les autres. C'est ça en fait qui est très différent. Et je sais aussi que certains parmi le public ont regretté par exemple le feu d'artifice.
Donc, oui, on va en parler, tout à l'heure.
Mais c'est surtout, ce qui est très différent, c'est qu'on est très très attentif à tout à chacun.
Bien sûr. Il y a plus de 300 bénévoles qui sont mobilisés.
Oui.
Des bénévoles donc qui donnent de leur temps, parfois pendant plusieurs jours, pour que la manifestation puisse avoir lieu. Quelle place ils occupent vraiment, eux, dans les 24 heures de la voile ?
Ils occupent une place très très importante. Sans eux, on ne peut rien faire. C'est clair. Même si on a les meilleurs services et les meilleurs coureurs et le meilleur DJ et tout ce que vous voulez, sans les bénévoles, ça ne peut pas avoir lieu. Ils sont une centaine à avoir organisé la fête sur l'eau et ils sont à peu près plus de 200 à terre. Donc sans eux, rien ne se fait. Ils ont une place déterminante et on a eu un petit souci un petit mois avant la fête des 24 heures parce qu'on craignait de ne pas avoir assez de bénévoles.
Oui.
Nous avons lancé un appel et on a eu de très nombreux retours. Ça, c'est très satisfaisant.
Ouais.
Des gens qui ne sont pas forcément dans des associations qui spontanément sont venus pour dire moi je vais donner un coup de main quoi.
Un appel qu'on avait relayé sur la radio aussi.
Oui,
vraiment important d'avoir.
On a relayé pour les crêpes aussi.
Oui.
On a eu. Parce que ça c'est très important.
D'avoir des crêpes.
Et d'avoir des crêpes pendant 24 heures.
Oui, voilà. On parle beaucoup de la compétition nautique, mais les 24 heures de la voile, c'est aussi une immense fête à terre. Il y a animation, restauration, musique, rencontre. Quel bilan vous faites de cette partie festive ?
Écoutez, je crois que le public est satisfait. J'entends dire, en me promenant dans la foule, que c'est une très belle édition. L'ensemble du public semble satisfait. Les musiciens, il y a eu des musiciens de qualité et des groupes de qualité. J'ai entendu quand même qu'il manquait le bagad.
Oui.
J'ai entendu cette remarque. Donc cette année, ça n'était pas possible puisque le bagad de Perros est à Lorient au Festival Interceltique.
D'accord.
La date correspond en même temps, enfin est la même que celle de ce festival.
Ouais.
Donc il faudra qu'on voit l'année prochaine à faire plaisir aussi à ceux qui attendent de la musique bretonne.
Voir aussi peut-être, il y a différentes manifestations sur le territoire en même temps. On pense au festival de Bugueless.
Oui, il y a le festival de Bugueless qui est un gros festival également.
Donc revoir peut-être les dates pour que tout le monde...
Alors le problème avec les dates, d'abord vous savez que ça dépend des marées.
Ça dépend des marées bien sûr.
Déjà pour commencer. D'une part et d'autre part, ça dépend aussi de l'association nautique de Trégastel,
oui.
qui a été créée à la suite de la dissolution du club nautique,
oui.
Et qui a des impératifs de date pour eux-mêmes. Enfin, les organisateurs ont aussi des impératifs de date personnels. Donc ce sont eux qui ont choisi cette date-là. On en a parlé, on a déjà évoqué l'année prochaine parce que...
On a déjà les dates pour l'année prochaine ?
On ne les a pas encore.
Pas encore.
On ne les a pas encore, on est en train d'en parler.
Ouais.
Mais ça se prépare un an à l'avance.
Oui, bien sûr.
Donc on verra avec les organisateurs. pour essayer de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de fêtes en
de
même temps.
Mais c'est compliqué. Temps, ouais.
C'est très compliqué parce que le mois d'août et les 15 premiers jours d'août sur notre territoire sont des jours très festifs.
Ouais. On a parlé de Bugueles, mais il y a aussi la fête de la mer.
La fête de la mer à Ploumanac, il y a la fête de la mer à l'île Grande. Ouais, il y a beaucoup de fêtes alentour. Mais ça n'empêche que...
Oui, il y a quand même beaucoup de monde partout.
Il y a énormément
finalement.
De monde pour les 24 heures. Vous avez pu voir pendant 24 heures. Ouais. Et moi, c'est la première fois que je vois autant de monde à cette heure-ci.
Oui, un dimanche après-midi,
effectivement. Un dimanche en début d'après-midi et à l'arrivée des bateaux.
Des bateaux, ouais. Et puis, on a le beau temps qui est avec nous aussi.
Je pense qu'on a le beau temps. On a aussi beaucoup plus de touristes cette année sur notre territoire. Et ça se sent.
Les 24 heures permettent aussi de faire travailler les commerçants, les restaurateurs, les hébergements et les acteurs locaux. Est-ce que cette manifestation représente aujourd'hui un véritable enjeu économique pour Trégastel ?
Alors oui, c'est un enjeu économique et c'est surtout un marqueur de l'identité de Trégastel, les 24 heures. Donc les commerçants attendent les 24 heures, ils savent que les 24 heures seront un moment très fort, qui vont être pour eux, ça va être pour eux beaucoup de travail parce que...
Oui.
Là, c'est le rush quand même, mais ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Il m'appartiendra ensuite de faire le tour de tous les commerçants et de leur demander ce qu'ils ont pensé
de cette édition, bien sûr.
C'est très important d'avoir les retours de tous les acteurs de la commune après cette fête.
Cette édition restera aussi également marquée par une décision importante, l'absence du feu d'artifice dans un contexte de sécheresse et de risques liés aux incendies. Comment vous avez pris cette décision ? Je suppose que c'est une décision difficile à prendre.
Alors, c'est une. On a beaucoup hésité, on a beaucoup réfléchi, mais il faut se rappeler que l'année dernière, il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un petit incendie, un incendie qui s'était vu sur l'île Ronde.
À
la suite de cet incendie, nous avons une association qui a déposé plainte contre la commune. C'est monté jusqu'au parquet quand même, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas oublié, il faut se souvenir de cela. Et le contexte de cet été est vraiment extrêmement important pour ce qui est des feux d'artifice. On a vu qu'il y a des incendies facilement partout. Hier soir, il y a plusieurs personnes m'ont remercié, d'autres m'ont dit qu'ils regrettaient bien sûr le feu d'artifice. Mais il y a une personne qui m'a dit quelque chose d'important hier soir, elle habite à côté. Les jardins sont très très secs en ce moment.
Bien sûr.
Et il arrive qu'il y ait des petites flèches qui retombent dans les jardins quand il y a le feu d'artifice tiré à l'île Ronde avec le vent. Et cette personne disait, s'il y avait eu le feu d'artifice, mon jardin brûlait tout de suite. Donc il faut pas penser, il faut aussi penser que ça va. Il y a des retombées qui ne sont pas seulement.
Il n'y a pas qu'en mer.
Donc
est-ce qu'avec
je crois que c'était une sage décision.
Est-ce qu'avec les épisodes de sécheresse qui risquent de devenir finalement plus fréquents et plus importants, est-ce qu'il faut aujourd'hui accepter que certaines de nos traditions évoluent aussi ?
Alors, pour les feux d'artifice, il faut les penser. Alors, vous voyez par exemple, Ploumanac a aussi annulé son feu d'artifice.
Ce soir,
L'île Grande l'a maintenu parce que c'est un feu d'artifice qui est tiré sur une barge, une barge. La solution, c'est probablement ça.
Ouais. Donc, c'est. L'idée, c'est de tirer le feu d'artifice sur barge ?
Mais ici, c'est compliqué.
Là, c'est compliqué.
Vous voyez, on a des rochers partout, c'est compliqué. Les coureurs, les bateaux tournent là. Il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on voit ce qu'on va faire.
Il y a des communes aussi qui décident d'autres alternatives, notamment tirer les feux en hiver.
Alors, on y pense.
Voilà, d'accord.
On y pense. On verra comment les choses, quel temps on aura.
D'accord. Faire une fête en hiver, c'est possible avec un feu d'artifice.
Alors, on peut faire un feu d'artifice sur les barges, sur une barge depuis la baie Sainte-Anne.
D'accord, oui.
Il y en a un qui a lieu
un
le jour, mais bon.
Ouais.
Là, c'est possible, donc on réfléchit à une date qui aille bien.
Il y a aussi les spectacles de drones lumineux qui se font de plus en plus.
Oui, il y a ça aussi, il faut qu'on regarde, on regarde aussi les nouveaux outils.
Aujourd'hui, c'est un peu plus cher qu'un feu d'artifice.
C'est cher. Mais un feu d'artifice, c'est cher aussi.
Oui. Donc tout ça, c'est des pistes que vous allez étudier.
On va étudier toutes ces pistes pour les années à venir.
Alors, si vous deviez résumer votre position aujourd'hui, est-ce que vous dites aux habitants, le feu d'artifice reviendra ou il faut réfléchir à une nouvelle façon ?
Ah, il faut réfléchir, il faut vraiment réfléchir à d'autres façons de marquer la fête. Et voilà. Il faut vraiment... Parce que vous savez, le temps qu'on a cette année, il risque de se reproduire.
C'est sûr.
Donc il faut aussi réfléchir en fonction des évolutions de notre climat.
Alors j'ai profité de votre présence pour parler d'autre chose aussi que des 24 heures. Une fois les 24 heures terminées, la vie va reprendre, la vie municipale continue. Quels sont aujourd'hui les principaux dossiers et projets sur lesquels vous souhaitez avancer à Trégastel ?
Alors on a beaucoup de choses à faire à Trégastel. Là, il nous faut, on est en train d'y travailler déjà, c'est de lancer une politique du logement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut sur lesquels il nous faut avancer. Nous avançons, nous travaillons en collaboration avec l'Agnon Trégor Communauté. Donc nous avons déjà quelques dossiers, quelques plans sur lesquels nous sommes en train d'avancer. Donc ouais. Ça, c'est une priorité, le logement.
D'accord.
C'est compliqué parce que nous n'avons pas beaucoup de foncier. Nous avons des populations qui ont besoin de se loger et il faut trouver le meilleur moyen, ouais. Au meilleur coût pour pouvoir répondre à la demande. Donc ça, c'est une piste importante. Nous avons donc déjà rencontré différents acteurs sur ce dossier. Il y a bien sûr les problèmes de circulation à Trégastel comme partout, mais en particulier chez nous. À la rentrée, vont se mettre en place les quartiers.
Des réunions de quartier,
mais pas telles qu'ils ont été pensées jusqu'à présent, différemment. Et un plan de circulation par quartier va être travaillé en lien avec les riverains qui connaissent bien les problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire dès la rentrée.
Il faut trouver le bon équilibre finalement entre l'activité touristique et aussi la qualité de vie des Trégastellois.
Voilà, il faut trouver tout cet équilibre-là. Donc ça, c'est aussi une piste importante. On a aussi une préoccupation importante. On a une population qui vieillit. Donc il faut aussi penser aux personnes qui vieillissent. Donc on réfléchit aussi à la façon de mieux les accueillir. Nous avons une résidence autonomie, comme vous le savez. Celle-ci vieillit, elle aussi. Donc on travaille là aussi avec Terre d'Armor Habitat, qui en est le propriétaire, pour voir quelles conditions, comment on peut améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées à Trégastel dans ce site-là, et dans la façon de les accompagner à domicile aussi, ça c'est important. Un autre dossier qui nous préoccupe également, c'est l'école.
Oui.
Là, nous avons besoin de sécuriser les locaux parce qu'il y a eu une inspection qui a été faite et qui a montré qu'il y avait quelques failles
en
matière de sécurisation des lieux. Donc on a déjà... On a déjà débloqué de l'argent pour démarrer les premiers travaux de sécurisation de l'école. Puis on a un autre souci, c'est la chapelle.
C'est le grand sujet qu'on allait parler maintenant, l'incendie qui a touché la chapelle Sainte-Anne.
On a la chapelle, là le dossier avance bien. Les gens peuvent voir que les lieux ont été sécurisés, ont été nettoyés, qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau puisque les arases ont été protégées. Et on entre maintenant dans la période où il faut de la patience. Puisque c'est la période des études, nous aurons probablement les résultats des études pour définir précisément les travaux à faire et dans quelles conditions les faire d'ici la fin de l'année. Après, il va falloir lancer l'appel d'offres pour trouver les entreprises qui vont faire les travaux, sachant que les entreprises qui peuvent intervenir sur ce type de chantier sont des entreprises habilitées par le patrimoine.
Oui. Alors, donc, cette chapelle n'est pas classée ?
Alors, elle n'est pas classée parce que vous avez une partie qui est du XVIIe siècle,
oui.
Mais il y a des parties qui ont été rajoutées au début du XXe siècle, et de ce fait, elle ne peut pas être classée. Mais elle est reconnue, elle est dans le patrimoine,
ouais.
Et c'est la raison pour laquelle c'est un architecte du patrimoine qui conduit toutes les opérations.
D'accord.
Donc, si tout se passe bien, si les délais sont respectés, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, on peut considérer qu'au milieu de l'année 2027, des travaux pourront commencer.
D'accord. Il y a une forte mobilisation autour de sa sauvegarde.
Oui.
On l'a vu avec notamment la Fondation du Patrimoine.
La Fondation du Patrimoine.
Donc les gens peuvent faire un don. Nous, on relaye régulièrement cette information pour que les gens puissent faire des dons. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux habitants, aux auditeurs de la radio et à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à la sauvegarde de cette chapelle ?
Alors, nous avons Ils ont plusieurs possibilités. Il y a la Fondation du patrimoine, en effet, avec un avoir fiscal comme pour tout don dans une fondation.
Ouais.
Il y a également la possibilité, certaines personnes nous l'ont demandé, donc la possibilité d'aller directement en mairie et de déposer un chèque à l'ordre du Trésor public.
D'accord.
Qui, parce que certaines personnes préfèrent cette ligne directe, je veux dire, ne souhaitent pas aller sur Internet. Ou voilà.
Il y a aussi
le frein pour certains qui est l'outil informatique. Donc,
oui, et puis des fois, il y a aussi les cagnottes où les cagnottes prennent cagnottes, de l'argent dessus aussi.
Et donc ça, tout ça, ça va être sur le compte de la commune, mais au Trésor public,
oui.
Via le Trésor public, sur une ligne budgétaire qui sera exclusivement réservée à la chapelle.
D'accord.
Puis il y a une association qui s'appelle les Amis de la Chapelle qui s'est créée,
ouais,
à l'initiative du diocèse, parce qu'il faut savoir que une partie du mobilier appartient au diocèse. Parce que c'est un mobilier post-1905.
D'accord, ouais.
Donc, le mobilier avant 1905 appartient à la commune et le reste appartient au diocèse. Donc il y a une association donc, qui s'est créée, les Amis de la Chapelle de Trégastès, qui est conduite par le diocèse de Saint-Brieuc.
D'accord.
Donc les gens peuvent aussi passer par ce canal s'ils le souhaitent.
Vous avez été surpris par l'élan de solidarité qui s'est fait autour de cette chapelle?
Sinon surprise, profondément touchée. Parce que cet élan de solidarité a été immédiat.
Ouais.
Le soir même de l'incendie, les gens déjà nous disaient « on veut donner pour la chapelle, on veut donner pour, ouais, la chapelle ». Donc la réaction a été immédiate. On va organiser aussi pour la chapelle des événements caritatifs.
D'accord.
On va continuer donc jusqu'à la fin des travaux, enfin jusqu'à ce qu'on ait fini de rénover la chapelle. On va continuer à faire différents événements à différents moments de l'année pour avoir encore un peu plus de capitaux.
Bien sûr. Ouais.
Parce que moi, j'avais donné une somme dans la presse, j'avais dit qu'on était autour d'1 million d'euros,
oui,
de travaux. Ça, c'est la somme qui m'a été donnée par l'architecte du patrimoine, justement. Mais comme ça, en regardant... Alors, elle était accompagnée d'un charpentier, d'un maçon, d'un couvreur.
Ouais.
Bon, il y avait les trois corps de métier, mais c'est une estimation qu'ils ont faite comme ça, hein, immédiatement. On verra à combien vont s'élever les travaux. On a déjà, nous, débloqué 200 000 euros pour la chapelle, parce que les factures arrivent, les entreprises qui ont travaillé là... Depuis le mois de juin, elles ont travaillé, il faut les rémunérer.
Ouais.
Donc ça, c'est nous qui avançons l'argent.
D'accord.
Et puis, il y a les assurances, on verra bien ce qu'elles vont... Combien on pense qu'on sera remboursé autour de 50-60%.
Quel est votre principal défi pour les années à venir à Trégastel? Comment vous souhaitez construire les prochaines années à Trégastel?
Trégastel doit à la fois garder son caractère propre, qui est une commune de petite taille. 7 km², c'est une petite commune, avec un cadre exceptionnel, ça tout le monde le sait. Mais elle doit aussi prendre sa place sur notre territoire, sur l'Agnon-Trégor communauté,
oui,
et sa place sur la côte de Granitrose, c'est très important.
Ouais.
Donc notre défi, c'est de faire que Trégastel soit un phare sur la côte de Granitrose. On va y arriver. Et qu'on prenne toute notre place dans notre territoire. Nous sommes très solidaires des autres communes, mais nous devons aussi avoir une place plus marquée. Tout le monde connaît Trégastel, mais on doit s'inscrire autrement dans l'avenir de notre territoire et de la côte de Granitrose. Parce que quand vous parlez de la côte de Granitrose, on cite rarement Trégastel.
C'est vrai.
Donc il faut qu'on cite Trégastel.
Alors qu'il faut qu'on cite Trégastel.
Voilà.
C'est vrai. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va conclure cette interview. Merci beaucoup, Madame la Maire.
Je vous remercie.
Et à très bientôt.
À très bientôt.